Alors, donc la parenthèse, c'est une structure qui a ouvert l'année dernière, au mois de novembre, et qui a donc tout juste un an. Et donc, il se trouve que ce n'est pas qu'une médiathèque, en fait, c'est un espace culturel. Donc, dedans, il y a certes la médiathèque, mais aussi l'espace jeux vidéo et la salle de spectacle. Donc, c'est un lieu qui réunit ces trois ensembles et dans lequel chaque agent essaye de travailler en commun avec les autres services.
Oui, parce que c'est vrai, la médiathèque, tu fais bien de le préciser, c'est finalement, ça fait partie d'un ensemble, d'un triptyque, je dirais, de l'espace culturel de Ballon-Miret.
Complètement. Et donc l'idée après, c'est d'accueillir les spectateurs ou le public en fonction des animations qu'on propose dans chacun de ces lieux.
Et alors cette médiathèque, elle a été créée quand ? Comment ça s'est passé l'histoire un peu de cette chose.
Alors en fait, il y avait une bibliothèque anciennement à Ballon-Miret, une petite bibliothèque de quartier qui accueillait déjà un public plutôt conséquent. Et la ville de Ballon-Miret souhaitait faire un espace beaucoup plus grand qui incluait certes une médiathèque plus large avec notamment des documents multimédia, pas que des livres, mais aussi des DVD, des CD et des jeux vidéo à prêter aux gens. Et également souhaitait au passage proposer une salle de spectacle plus conséquente que ce qu'ils avaient auparavant. Donc ils ont décidé de fusionner le tout en fait en novembre dernier du coup.
Une médiathèque, est-ce qu'on peut brièvement définir ce que c'est ? Parce que finalement, bibliothèque, bon, ça parle à tout le monde. Médiathèque, un peu moins. C'est peut-être un peu plus compliqué à définir. Comment on pourrait le faire ?
En fait, je viens de le dire tout simplement, la médiathèque, c'est un lieu qui contient des médias. Bibliothèque veut dire au départ juste un lieu qui contient des livres. La médiathèque contient des documents multimédia. Donc il peut y avoir certes le livre papier, mais également les magazines, les CD, les DVD, les jeux vidéo. C'est multi-support en fait, la médiathèque. Et ça peut même maintenant proposer des collections dématérialisées. On peut également proposer des fonds musicaux à écouter uniquement sur ordinateur. Voilà, il y a plein de choses à proposer. Et on va vers une pluridisciplinaire au niveau de cette structure, en fait. Voilà, pour essayer de faire simple.
Justement, du coup, dans une médiathèque, la réalité virtuelle a complètement sa place, puisque ça rentre finalement dans le domaine. Alors, on y vient à cette réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est, la réalité virtuelle ? C'est peut-être un peu naïf comme question, parce que c'est vrai, c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Mais au fond, quelle est la définition exacte de ce terme-là ?
Pour essayer de le faire simple, la réalité virtuelle, c'est un casque dans lequel on va vous projeter une sorte de monde virtuel, mais qui reproduit la réalité. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment ces deux termes. En fait, c'est qu'on a l'idée à la fois de se rapprocher de la réalité, mais de rester toujours dans une image fictive qu'on vous projette sur les yeux, mais qui n'existe pas vraiment.
Oui, voilà, c'est ça. On déconnecte finalement le réel du virtuel.
C'est ça.
On y reviendra justement tout à l'heure. D'ailleurs, on reviendra aussi sur les événements que vous faites via la médiathèque, notamment les samedis virtuels. Bon, ça s'appelle pas comme ça, mais je me suis permis de désigner ça comme ça. On y reviendra en seconde partie d'émission. En revanche, un point qui est important, du coup, on l'a évoqué en introduction, est-ce qu'on peut faire une différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle ?
Oui, je vais essayer de la faire. tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi, la réalité augmentée, c'est vraiment l'idée de regarder la réalité avec des surplus, c'est-à-dire regarder l'image autour de soi, mais rajouter un hologramme qui apparaît, des données, des informations sur le bâtiment qu'on voit, par exemple. Donc c'est finalement la réalité qui est, augmentée, qui est améliorée. Alors que la réalité virtuelle est complètement fictive. Ce sont des images qu'on a créées, qu'on a inventées et qu'on reproduit sur ses yeux, mais du coup qui n'a rien à voir avec notre propre réalité. En fait, c'est pour moi deux choses différentes, deux mondes parallèles d'une certaine manière.
Oui, en fait, la réalité virtuelle, on plonge un peu l'esprit et le corps aussi de la personne dans un autre monde. Et pour le coup, c'est vrai, t'as raison, la réalité augmentée, c'est tout à fait ça. C'est notamment le cas, c'est très utilisé dans les musées maintenant, de plus en plus, pour venir illustrer, je sais pas moi, la chambre du roi
ou des tableaux qu'on explique.
En tout cas, c'est vrai que c'est deux termes qu'on retrouve de plus en plus. Une question qui découle de ça, est-ce que on peut considérer du coup que le rêve est de la réalité virtuelle?
C'est un peu
difficile. C'est aussi plonger l'esprit de quelqu'un et indirectement le corps dans un monde qui est pas réel.
Mais la grande différence pour moi, c'est que le rêve découle de notre propre cerveau. donc vient finalement de l'intérieur, alors que la réalité virtuelle, il faut jamais oublier que ça ne reste que des images projetées sur l'œil. En tout cas, pour le moment, on est toujours à ça, c'est-à-dire un casque sur les yeux. Et donc finalement, si on a envie juste de fermer les yeux et de ne plus voir ce qui se passe, on le peut avec la réalité virtuelle, contrairement au rêve où on a déjà les yeux fermés. Ouais. Donc pour moi, c'est là la différence. Mais on est un peu dans cette idée, effectivement, de projection mentale, même si pour l'instant, c'est que de l'écran. Pour
oui
moi.
Et puis je pense qu'il y a aussi ce volet technique et technologique. Le rêve c'est le corps humain qui le produit, et là la réalité virtuelle pour le coup c'est un objet technologique.
C'est un substitut au corps finalement, ouais. Mais c'est pas le corps qui le produit, c'est vraiment uniquement l'ordinateur et les créateurs programmeurs derrière cette machine.
Alors par contre, est-ce qu'on peut considérer comme réalité virtuelle le cinéma immersif? J'entends par immersif le fait de produire des sensations, notamment des sièges qui bougent pendant le film, etc., la ventilation, tout ça, toutes ces petites choses qui se retrouvent dans des gros parcs d'attractions, notamment sans les citer. Mais est-ce que c'est considéré comme la réalité virtuelle?
Je ne sais pas. Je dirais que non. Au départ, en tout cas, c'était plus dans le cinéma dynamique, ce qu'on appelait, donc plutôt dans l'idée d'augmenter ce qu'on voyait à l'écran. Maintenant, on va pas se mentir, plus ça va et plus ces deux mondes se fusionnent, puisque la réalité virtuelle ne se constitue pas que de casques. Il y a également des tapis qui permettent de marcher, qui vont vous faire vivre des sensations de mouvement. Il y a effectivement des plastrons, enfin des espèces de manteaux qui vous font subir les chocs. Donc en fait, au fur et à mesure, effectivement, cette idée de dynamisme, d'objets dynamiques s'ajoute peu à peu à la réalité virtuelle, et je pense qu'au fur et à mesure, oui, ça va complètement fusionner et signifier la même chose, je pense.
À la médiathèque de Ballon-Miré, sous quelle forme quelle forme prend cette réalité virtuelle? Est-ce que vous avez des casques? Est-ce que vous avez des tapis? Tu l'as évoqué. Qu'est-ce que vous avez?
On n'en est pas encore au tapis, mais on a effectivement pour le moment deux casques de réalité virtuelle. Je me permets de les citer puisque en général ceux qui connaissent un petit peu aiment bien avoir les noms. Donc on a le HTC Vive qui est l'un des casques les plus performants en matière de qualité et d'expérience, qu'on propose de faire de façon mobile, de pouvoir se déplacer avec le casque. Et on a également l'Oculus Rift, qui est le deuxième sur le marché, le gros concurrent, on va dire, qui, nous, est utilisé surtout en version assise devant son ordinateur, qui permet de faire des choses surtout de manière statique, enfin, assis. Et on attend le PlayStation VR, qui sera pour l'année prochaine, mais qui n'est pas encore proposé, mais qu'on aimerait beaucoup aussi avoir, puisque pour le moment, on considère que c'est les trois plus gros casques du marché et qui proposent des expériences intéressantes. C'est en tout cas notre volonté.
Et est-ce que vous avez comme ambition d'élargir au tapis, à d'autres objets, etc., ou pour l'instant on reste au casque?
Pour le moment on reste au casque, ouais. Parce que ça représente déjà un investissement qui est important et qu'il faut qu'on, entre guillemets, rentabilise et qu'on teste, et que malheureusement la réalité virtuelle progresse énormément très très vite et on n'a pas forcément les moyens, ni budgétaires ni humains, de suivre vraiment cette avancée. Par contre, on aimerait vraiment peu à peu se situer, enfin vraiment se placer en tant que structure qui propose un large choix de découvertes. Et on fait attention notamment à tout ce qui va être réalité virtuelle avec les portables. On suit un petit peu là l'avancée du casque autonome aussi, qui va peut-être permettre d'aller faire des voyages en réalité virtuelle. Donc on suit ça de près. Mais pour le moment, on s'en tient au casque parce qu'on n'est pas non plus. Déjà, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de salles d'arcane de réalité virtuelle qui sont en train de se créer. Donc on leur laisse ça finalement. Nous, l'idée, c'est d'être surtout concentré sur les contenus proposés. Donc pour l'instant, en tout cas, on reste au casque.
Alors les contenus, venons-en aux contenus.
Je te fais une transition.
Effectivement, c'est parfait, comme ça c'est tout bon pour moi. Le contenu, qu'est-ce que vous proposez comme contenu par rapport à la réalité virtuelle? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça?
Alors, moi je considère que les contenus de réalité virtuelle sont de différentes catégories. On a d'abord la catégorie qui va être vraiment de spectateur, où on va uniquement, on va être vraiment dans la contemplation, on va juste, entre guillemets, subir, juste regarder, profiter de ce qui est proposé, mais rester assis finalement permet juste de profiter du spectacle. Donc on va avoir ce genre de contenu d'exploration. On a notamment un contenu qui marche très très bien à la médiathèque, qui est The Blue, qui est une application qui permet d'aller voir les poissons, d'aller explorer explorer la mer et de vraiment rester...
Tout en restant assis.
Tout en restant assis, si on le souhaite. C'est d'ailleurs une application que je fais avec des personnes âgées, qui leur permet notamment de juste rester dans leur fauteuil roulant, leur mettre le casque sur les yeux et d'aller voir les poissons en direct. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui peut se faire à tout âge avec ses propres moyens. Ça m'est arrivé de le faire avec des personnes handicapées également. Donc voilà, c'est la version la plus simple en fait de la réalité virtuelle. Pour moi, c'est la contemplation. Ensuite, on a la deuxième phase où on peut être acteur. Donc ça va être vraiment l'idée voilà, d'être dans le jeu, de pouvoir réagir, d'avoir en général des manettes qui permettent d'interagir dans le jeu. Donc ça va être par exemple des applications de sabre laser et pistolet laser, de tir à l'arc. On va avoir également des jeux de bêtes de baseball où on peut casser des objets. Enfin vraiment l'idée c'est du coup d'interagir avec le jeu et de faire des points, de faire des scores, de tenir des temps. Et là on va vraiment rentrer dans la partie divertissement, jeux vidéo en fait derrière.
Ouais, effectivement on pense voilà. Tout de suite aux jeux vidéo.
Tout de suite on y pense et ça va être vraiment la partie finalement la plus connue en fait de la réalité virtuelle où on regarde certes mais on interagit également. Et moi, je mets une troisième catégorie qui est la création. Pour moi, on est vraiment sur ce troisième type où on a des applications qui permettent de faire des dessins en trois dimensions, vraiment de pouvoir regarder son œuvre, de rentrer à l'intérieur. On a des applications qui permettent de créer des structures, de pouvoir créer des mondes, imaginer des bâtiments, des architectures, tout ce qu'on souhaite avec plein d'éléments prédisposés. Et puis, on a également des applications qui permettent d'incarner des personnages, de filmer, de recréer des scènes. Il y a plein de choses de vraiment dans la création qui existent, qui est beaucoup moins connue, mais qui se développe de plus en plus et qui nous intéresse particulièrement. Parce qu'on peut en plus impliquer notre public dans un processus créatif qui leur permet ensuite de pouvoir observer leurs œuvres, de les montrer à d'autres personnes. Il y a même moyen parfois de filmer à l'intérieur de ce qui s'est passé dans la réalité virtuelle et de la remontrer sur une chaîne YouTube, sur un réseau social. Enfin voilà, c'est vraiment
et de la partager en fait.
Et de la partager derrière et de montrer ce qu'on peut faire avec un casque de VR.
Alors concrètement, si une personne vient vous voir et rentre dans la médiathèque. Et qu'elle vous dit, je veux tester la télé-réalité. Eh ben non, la réalité virtuelle. C'est deux termes assez proches, hein, d'ailleurs. La réalité virtuelle, concrètement, comment ça se passe? Comment vous l'aiguillez? Est-ce que vous le conseillez par rapport à son niveau, je dirais, ou ses expériences passées par rapport à la réalité virtuelle?
On va lui demander déjà, tout simplement, s'il en a déjà fait, pour savoir à quel point il est avancé dans cette expérience, parce qu'il y a une vraie différence entre n'en avoir jamais fait et en avoir fait au moins une fois. Parce que c'est difficile, finalement, de décrire que cette expérience tant qu'on ne l'a pas testée et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre soi-même pour savoir comment l'appréhender ensuite. Donc on va d'abord poser la question, si c'est pas le cas, on va demander si la personne a d'éventuelles phobies. Si elle a peur du noir, de la foule, du vide, parce qu'en fait toutes ces angoisses peuvent réapparaître.
Effectivement, parce que du coup, qui dit monde virtuel dit aussi des dangers virtuels, mais qui peuvent être.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on projette sur l'œil, mais que du coup, le cerveau réagit derrière. Et que comme il réagit forcément à ce qu'il voit, il va avoir parfois des réactions auxquelles on ne s'attend pas du tout. Donc ça peut être des tremblements, ça peut être des spasmes, ça peut être des crises d'angoisse. J'ai jamais eu trop le cas pour le moment, mais on fait attention à être très préventif là-dessus, parce que justement, on va sûrement y venir, mais c'est une technologie récente.
Ouais. Et oui, on va en parler.
On ne sait pas forcément les effets.
Effectivement, non, mais c'est vrai que ça pose la question des problèmes et puis aussi de l'éthique, hein, on va y venir, mais il faut d'abord dire que ça a certains avantages, la réalité virtuelle. Alors pour une médiathèque, quel est-il par exemple pour une médiathèque le principal avantage de la réalité virtuelle?
Alors la première chose, c'est bien évidemment de faire découvrir des contenus culturels. Mmh. Le principe d'une médiathèque, c'est d'avant tout de donner accès à cette culture au plus grand nombre. Donc si ça nous permet derrière de faire découvrir un univers, de rattacher éventuellement à des collections ou à du culturel en général, c'est tout bénef bien évidemment pour nous. Il y a également l'idée tout simplement de faire connaître la structure, de montrer ce qu'il y a autour et de l'accompagner pour montrer tout simplement les autres services qu'on propose, les autres animations. Et puis, de toute façon, derrière, l'idée, c'est de permettre l'accès à ces nouvelles technologies. En fait, l'idée, c'est de permettre à tous ces foyers qui, pour le moment, n'ont pas du tout les moyens de se les payer, et puis, de toute façon, n'ont pas forcément l'envie, de montrer ce qui ça fait aussi de ce côté-là. Et ça fait partie du rôle de la médiathèque, de manière générale, de se placer dans ces nouvelles technologies et d'être capable d'aiguiller les gens, de les guider, d'aller vers ce qui peut plaire, ce qui ne peut pas plaire, ce qui est déconseillé aussi de faire. Et il est important que les médiathécaires, ce qu'on appelle, se placent peu à peu dans ces nouvelles technologies pour savoir aiguiller les gens. Ça fait partie des nouvelles fonctions du métier, mais qui sont importantes parce que c'est là aussi que les médiathèques ont une place à jouer pour nous.
importante, c'est vrai, mais est-ce que finalement, à terme, alors on le voit en ce moment, la réalité virtuelle, elle est en pleine expansion, hein, faut dire ce qui est, on reviendra sur les chiffres tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas un risque aussi finalement pour ces médiathèques, parce que le jour où tout le monde aura, je caricature bien sûr, mais le jour où tout le monde aura un casque chez soi, un casque de réalité virtuelle, ils auront pas besoin de se déplacer en médiathèque.
Alors c'est une bonne remarque, mais ça a été le cas sur tous les autres médias en fait, ça a été le cas avec les CD, avec les DVD, avec peut-être même les jeux vidéo actuellement, puisqu'on est de plus en plus vers le dématérialisé. Pour moi, en tout cas, l'objectif d'une médiathèque, c'est pas tant d'être toujours dans la rentabilité, mais d'abord de suivre son public dans ses attentes, et ensuite, effectivement, peu à peu, d'évoluer avec lui. Alors, effectivement, c'est lent. Il y a toutes les médiathèques et toutes les municipalités ne peuvent pas toujours se le permettre, donc ça évolue au fur et à mesure. Mais ça fait partie aussi de la progression de la culture, hein. Ça, forcément, ça évolue au fur et à mesure. C'est effectivement quelque chose de mouvant. Effectivement, la réalité virtuelle, en plus, bouge très très vite. Donc, quand on peut se le permettre, on le fait. Quand on ne peut pas, on le fait pas, hein, tout simplement. Mais pour moi, c'est quand même important d'arriver à maintenir effectivement ce suivi avec les moyens de chacun. Et bon, effectivement, le casque, pour le moment, est quelque chose de assez conséquent, hein, je le dis encore en matière budgétaire, mais ça va devenir aussi peu à peu de manière de plus en plus populaire, de plus en plus accessible, et on se placera ailleurs.
Les prix vont aussi baisser. Hein,
également, c'est annoncé de plus en plus.
Voilà, et puis il y a des investissements énormes qui se font, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui évolue tellement vite, c'est-à-dire que les casques qui sont à l'heure actuelle sur le marché, ils seront obsolètes dans un an ou deux, quoi.
Effectivement, ouais, complètement. Et en même temps, le prix baisse peu à peu, et donc permet à d'autres de découvrir cette technologie qui reste certes obsolète, mais qui en même temps reste encore intéressante pour l'expérience. Elle est encore nouvelle, innovante, donc on en a encore pour quelques années avant vraiment de se faire dépasser.
Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il y a cet effet découverte un peu. Waouh, qu'est-ce que c'est la télé-réalité, décidément, la réalité virtuelle. À quand date en fait l'instauration, je te l'ai pas demandé, mais l'instauration de la réalité virtuelle à la médiathèque, est-ce que c'est quelque chose qui est assez récent et vous avez dit il faut qu'on prenne le bon wagon, ou c'est quelque chose où vous avez été un peu précurseur, un peu avant-gardiste par rapport à ça?
Non, on a plutôt pris le train en marche, effectivement. La réalité virtuelle, alors, je connais pas exactement l'historique de la réalité virtuelle là-dessus, je n'ai pas révisé mes fiches, mais ça existe depuis très longtemps dans certains domaines. Par contre, dans le domaine culturel, c'est vraiment très récent. Et les médiathèques, en fait, s'y intéressent que depuis très peu. Pour vous donner un exemple, la création du groupe Facebook Réalité virtuelle en bibliothèque a été créée en janvier dernier. Donc, qu'il y ait une création de groupe Facebook, c'est qu'il faut un minimum de personnes, et je crois qu'il y a eu un référencement qui doit être sur une trentaine de structures à l'époque qui avaient seulement ce casque. Sur le nombre de... Alors, je sais pas combien de médiathèques en France, mais il y en a un paquet, hein. Et c'est très
peu. Alors, j'ai pas le chiffre, hein.
Moi
je pourrais
non plus,
pas te dire,
mais voilà, on est sur beaucoup plus que 30. Et donc voilà, c'était quelque chose qui vient, pour moi, de démarrer, je dirais oui, il y a à peine 2-3 ans maximum, hein. Ouais. Mais voilà, pareil, de plus en plus de structures s'y intéressent et ça va vers une évolution.
Voilà, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui va prendre de
tout
plus en plus de place.
Tout comme à l'époque, les jeux vidéo n'étaient pas du tout attendus en médiathèque, et on est quand même sur des structures qui le proposent de plus en plus souvent maintenant. Même avec un tout petit fond, on se le permet. De même que des médiathèques, même si elles n'ont pas le budget, peuvent se permettre de proposer le Samsung Gear VR, exemple, qui est un casque entre guillemets low cost, qui ne coûte pas très cher, mais qui avec un portable, un Samsung, fonctionne déjà très bien pour découvrir ce que c'est un tout petit peu la réalité virtuelle. Donc il y a des moyens aussi un petit peu moins chers pour des petites collectivités de se le payer.
Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur les risques? Alors de façon plus générale, pas que au niveau de la médiathèque, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des risques et un peu ce problème de finalement cloisonner la réalité vraie, je dirais, à la réalité virtuelle, et de déconnecter même le réel du virtuel. Est-ce que c'est pas un risque? On se rappelle tous, d'ailleurs je l'ai noté sur ma petite fiche, c'était à la conférence Samsung Unpacked où il y a cette photo de Mark Zuckerberg qui marche dans une rangée de journalistes
avec
des casques qui ont l'air, c'est vrai pour le coup, un peu abrutis par cette technologie. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que c'est un risque pour l'homme? C'est peut-être un peu philosophique cette question, mais je pense qu'elle est importante d'être posée.
Pour moi, on va pas se mentir, oui, il y a un risque. Disons que ça dépend de comment va être accompagnée cette technologie. En fait, on a bien conscience que on va un peu vite, hein, on ne sait pas du tout les effets à long terme sur l'œil, sur le cerveau, sur le corps.
Effectivement, il y a ça aussi.
Cette notion-là de manière générale. Et puis même, effectivement, dans le court terme, on se rend compte déjà, nous, à notre petite échelle de professionnels, qu'on s'y habitue assez vite, mine de rien, que certes, la première demi-heure, on est complètement sonné, on comprend pas où on est quand on en sort. Par contre, au fur et à mesure, le cerveau s'adapte peu à peu et peut tenir plusieurs heures sans que ça lui pose trop de problèmes. Donc, effectivement, il y a l'idée d'adaptation, mais est-ce que derrière, voilà. Donc, pour moi, ça demande un suivi. Maintenant, j'ai suivi, il y a notamment le salon Virtuality à Paris qui propose tout plein de toutes les dernières technologies en réalité virtuelle qui a apparu juste l'année dernière. C'était la première fois.
C'est un peu la référence.
Ouais, actuellement,
France,
je pense que c'est la référence, c'est quasiment le seul salon qui en parle vraiment
de
manière très complète.
Et en
réalité augmentée également. Voilà. Et à ce salon, on a assisté à la création de la première structure psychologique de suivi de la réalité virtuelle. Vraiment, il y a eu enfin, parce que les psychologues s'en servent depuis très longtemps, la réalité virtuelle. Mais ils ont enfin créé vraiment un service qui va être de suivi psychologique de cet impact sur le cerveau de la réalité virtuelle. Et donc, c'est la preuve que, peu à peu, on va vers un suivi. Pour moi, voilà, il faut simplement en prendre conscience. Il faut aussi faire de la prévention, entre autres auprès des plus jeunes, puisque, pour le coup, autant nos cerveaux d'adultes peuvent à peu près s'adapter, autant les leurs, on ne sait pas forcément ce que ça va donner après quand ils vont grandir. Donc, il y a toute cette notion-là qu'il faut accompagner. Ouais. Maintenant, pour moi, voilà, on est... Je ne fais pas trop de soucis parce que je pense qu'il y a un vrai suivi professionnel là-dessus.
Mais est-ce que c'est le rôle du coup d'une médiathèque, par exemple, de faire de la prévention et d'accompagner justement par rapport au risque de la réalité virtuelle ?
Oui, complètement. Alors, on va pas rentrer dans les problèmes sanitaires, on va pas forcément parler, on va pas à l'inverse pas faire de séances psychologiques pour vaincre l'agoraphobie ou genre de choses. Mais par contre, oui, c'est de notre rôle de dire, écoutez, votre enfant est trop jeune, on va pas lui proposer parce que nous on décide qu'à partir de tel âge ce n'est pas possible, c'est trop compliqué, on ne sait pas ce que ça peut lui provoquer. C'est à nous de bien prévenir la personne avant l'expérience, de prendre le temps après, et oui, de l'accompagner parce qu'on devient acteur de cette technologie, on ne peut pas se dire qu'on s'en lave les mains et qu'on l'utilise juste sans parler des conséquences. Donc pour moi, oui, ça fait partie de notre rôle, effectivement.
Je t'ai préparé un petit quiz sur la réalité virtuelle, je mets le jingle et je te pose quelques petites questions, c'est parti. Est-ce que t'es prête ?
Oui.
Alors, c'était pas un oui très convaincant, mais non, il y a pas de piège. On verra ça dans sa vie. À quand remonte le terme de réalité virtuelle ? La première fois qu'il a été énoncé dans un écrit, en fait, public.
Alors je pense qu'il c'est plus vieux qu'on ne le croit. Je sais pas, je tenterai dans les années 60-70.
Ah, c'est même avant.
Ah, c'est même avant. D'accord.
C'est en 1938.
Ah, carrément.
Et alors, ironie du sort, non, c'est un Français qui est à l'origine de ce mot, Antonin Artaud. C'était un poète, essayiste, etc. Et il a utilisé cette expression « réalité virtuelle » pour décrire la nature illusoire des personnages et des objets dans le théâtre. Alors, pour le coup, ça n'a rien à voir.
Non,
mais c'est lui
l'idée.
qui est à l'origine, en tout cas publique, de ce mot « réalité virtuelle ».
Non, il entendait plus réalité fictive finalement.
Oui, voilà, c'est d'accord. Effectivement, en théâtre, on pouvait pas parler évidemment à l'époque de réalité virtuelle. Quel est l'ancêtre des casques de réalité virtuelle actuelle ? Enfin, réalité virtuelle actuelle, oui, ça rime, mais c'est pas les mêmes mots, hein, effectivement.
L'ancêtre du casque.
Vraiment, ce qui est considéré comme l'ancêtre de la réalité virtuelle, finalement.
Non, comme ça. J'ai vu des énormes casques, les premiers, justement, au salon Virtuality, des trucs énormes de cosmonautes qui rappelaient beaucoup ça, mais je pense pas que ce soit ta réponse.
Non, alors moi j'ai le Sensorama, est-ce que ça te dit quelque chose ?
Ah oui, c'est une espèce de truc...
Inventé en 1962, c'était une machine, pareil, c'était pour du cinéma immersif à la base, pour donner l'impression de stimuler d'autres sens chez la personne. C'est en tout cas ce qui est considéré comme le début finalement de la réalité virtuelle, et ça date quand même de 1962.
Ouais.
C'est pas tout récent non plus.
Il y a déjà eu pas mal de tentatives en fait.
Ouais, parce que évidemment on parle beaucoup aujourd'hui de la réalité virtuelle parce que ça, voilà, ça explose, etc. Mais c'est quand même quelque chose
c'est
qui...
C'est pas si nouveau que ça, en
voilà,
fait.
Voilà, quelque chose qui existait avant. Alors, autre chose qui est pas tout à fait de la réalité virtuelle, plutôt de la réalité augmentée, pour le coup, il y a des robots qui s'utilisent en médecine, notamment à distance, qui sont contrôlés un peu comme un jeu vidéo. Est-ce que tu sais le nom du premier robot de chirurgie en réalité virtuelle?
Non, j'ai aucune idée.
Ouais, les questions...
Je suis très nul aujourd'hui.
Non, non, les questions sont très dures.
Oui,
hein,
oui, oui.
Franchement,
j'ai pas révisé mes fiches. Je le redis.
J'ai pas été très, très sympa là. Il s'appelle le Da Vinci. Alors, c'est un robot qui a été conçu à la fin des années 2000. Fin des années 2010.
Ah oui.
Qui s'appelle Da Vinci, voilà, et qui sert à opérer des gens à
D'accord.
distance.
D'accord. 2010, du coup.
Voilà.
C'est quand même déjà 7 ans. Quand même.
Question un peu plus simple. À combien estimes-tu les ventes de casques de réalité virtuelle en 2015 dans le monde?
En 2015, donc il y a 2 ans, qui commençaient à un petit peu se vendre. Dans le monde,
ouais.
On est en quoi? En milliers?
On est en millions.
En millions?
Ouais, en millions quand même.
D'accord, quand même. Je sais pas, ouais, 5-6 millions?
Un peu moins.
Un peu moins.
On est à 2,2 millions.
Ah, quand même.
Effectivement. Sauf que, en 2015, donc c'est une étude, un rapport, pardon, de CCS Insight, pardon, c'est une société d'études anglaises sur la question.
D'accord.
Et elle estime, en 2018, qu'il y aura 20 millions de casques de réalité virtuelle vendus.
Oui, ça m'étonne pas plus, hein.
Donc, j'ai pas les chiffres 2017, malheureusement, mais
faudrait
je pense qu'on doit pas en être loin,
oui,
déjà.
Oui.
Hein.
Ouais, ouais, surtout avec là, il y a eu des baisses de prix de fait sur les plus performants, donc je pense que c'est en train de bien grimper en flèche en ce moment.
Ouais, ouais. Et alors du coup, le marché mondial, il représenterait, en 2018, environ 4 milliards de dollars. Donc ça aussi, le volet économique est assez important de la réalité virtuelle. Et alors, une question qui est un peu liée à celle-là, la dernière. combien d'investissements ont été faits en 2016 en réalité virtuelle?
Je pense que c'est énorme, parce que c'est une technologie qui demande beaucoup d'argent. C'est pareil, on doit être en milliards, non? Milliards de dollars?
Eh ben non, pas...
Ah non,
non,
c'est vrai?
Non, non.
Ah, j'ai un peu
surestimé. On est encore en millions.
Ah, d'accord.
On est encore en millions, ouais.
Je sais pas.
D'ailleurs, on est même carrément en millions.
D'accord. alors pareil, peut-être 10 millions, un peu moins?
On est à 108 millions.
Ah, pardon. 108 millions, quand même.
108 millions. Alors, pour le coup, c'est les investissements sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
D'accord.
Ça peut paraître peu, sauf que c'est 3 fois plus que le montant des investissements de 2015. Donc,
ouais,
en l'espace d'un an, ça a triplé. Et j'imagine que les chiffres pour 2017, bon, l'année n'est pas encore écoulée, évidemment, et les chiffres pour 2018 seront peut-être 3 fois aussi plus importants que les 100 millions.
Oui, en tout cas, ils vont continuer à doubler parce que, malheureusement, il y a un besoin de recherche sur cette technologie qui est immense. C'est une technologie, mine de rien, qui est complexe, hein, parce qu'on est quand même, pour rappel, sur des lasers qui détectent les mouvements d'un casque dans lequel on reprojette une image qui correspond à ce que verraient vos yeux. Enfin, on est sur un truc un petit peu bossé quand même.
Oui,
donc,
oui, effectivement. Qui...
Donc, je suis pas technicienne là-dessus. On rêverait d'ailleurs de faire venir des gens qui créent des casques, qui créent des programmes pour la réalité virtuelle, parce que ça doit être très intéressant, mais très complexe également, et sur lequel on maîtrise encore peu de choses, en fait, surtout pour la qualité visuelle, entre autres.
En tout cas, un énorme marché, en tout cas potentiellement un marché économique énorme.
Complètement, et qui est en train de s'ouvrir
de plus en
plus.
Tout est à faire presse dans ce marché-là. Ben voilà, c'est terminé. Pardon pour ces questions, ces terribles questions.
J'ai survécu.
Allez, on va essayer de se rattraper avec les samedis virtuels que vous organisez. En fait, chaque samedi depuis fin novembre, c'est ça?
C'est ça.
Vous organisez en fait une initiation à la médiathèque, évidemment, par rapport à la réalité virtuelle. En quoi ça consiste concrètement, réellement?
Alors, c'est quelque chose qu'on proposait déjà quasiment depuis l'ouverture. En fait, on souhaitait tout simplement être sur des ateliers d'initiation, de découverte pour le public de Ballon-Miré et des environs, bien évidemment. Et donc, c'est des séances de 2 heures. Donc, on est sur du 15h-17h, où on propose aux personnes de venir découvrir, soit de découvrir pour la première fois, comme on le disait tout à l'heure, donc d'être vraiment dans une découverte totale, soit de revenir pour tenter les autres contenus qu'on propose, en essayant de varier d'une fois à l'autre les contenus proposés. On essaye de temps à autre de faire des petites thématiques. Pour Halloween, par exemple, on avait fait un spécial réalité virtuelle d'horreur. Donc forcément, voilà, avec quelques applications qui font peur ou qui demandent un petit peu de se battre contre quelques zombies, par exemple. Mais à après, de manière générale, voilà, on essaye d'être surtout sur du libre, et même si on a de la thématique, on essaye toujours d'avoir 2-3 contenus faciles, entre guillemets, pour les premières fois, et qui permet vraiment d'appréhender. L'idée, c'est vraiment, pour le coup, là, d'être simplement dans de la découverte, je le dis encore une fois, mais il n'y a pas d'autre terme, vraiment, c'est l'idée d'appréhender cette technologie, d'avoir quelques explications de notre part, de juste simplement mettre les yeux dedans, ou d'y passer 10 minutes sur une action vraiment longue. Donc voilà, c'est d'en profiter en fait, de se faire plaisir.
Et vous vous adressez du coup aussi aux enfants à partir de 5 ans en revanche, il y a une restriction au niveau
on n'a choisi pas avant, et encore on est parmi mes collègues, on est ceux qui permettent les 5 ans, la plupart des collègues permettent soit 7 ans, soit 12 ans même parfois.
Oui, parce qu'il y a aussi en raison de la santé, souvent on déconseille la réalité virtuelle aux enfants
de bas
âge.
On ne se rend pas compte du tout de l'impact de cette technologie sur l'œil, sur le cerveau.
Voilà, parce que ça altère en tout cas.
Et puis tout simplement, avant 5 ans, on a la tête trop petite pour porter un casque, tout bêtement, c'est des casques qui sont d'abord faits pour des yeux et des têtes d'adultes. Donc on a de toute façon cette contrainte technique qui fait que ça ne vaut pas la peine. Donc voilà, on essaye d'être restreint. Et de même qu'à l'inverse, on fait attention aux personnes, comme je vous disais, épileptiques, qui auront des phobies, etc. Mais on ne fait pas de restriction d'âge, par contre, au-dessus. Donc comme je vous disais, j'adore faire de la réalité virtuelle avec les personnes âgées, avec les retraités. Et je trouve ça très intéressant aussi de voir comment eux appréhendent le monde.
Et justement, comment ils perçoivent ces journées, ces samedis que vous organisez? Est-ce que c'est bien perçu par le public? Est-ce que vous avez des critiques? Ou comment ça se passe? Comment on ressent
Pour le moment, j'ai eu que des retours positifs. Ouais. De manière générale, on a des personnes, soit qui sont de passage et qui sont ravies de pouvoir en profiter, soit carrément, moi, des personnes qui me disent « Vous serez bien ouvert telle semaine, parce que ce samedi-là, j'ai toute ma famille qui passe et je compte bien les amener pour leur faire découvrir. » Donc, on a vraiment des personnes qui deviennent fidèles au rendez-vous. Et alors, sur l'appréhension des personnes, de manière générale, on a souvent des gens sceptiques qui viennent en disant « On se rend pas trop compte de ce que c'est, mais on entend parler partout, donc on se laisse tenter. »
Pour essayer, quoi, c'est un peu...
Pour essayer, mais souvent sans grande conviction, et souvent, ils sont agréablement surpris du résultat. Ils se font souvent surprendre, en fait.
Et ils reviennent, du coup, à ce genre de
journée. On a des gens qui deviennent un peu accros, pour le coup. Enfin, j'exagère un peu, on n'est pas non plus sur de la dépendance maladive, mais vraiment, il y a ce côté on y revient de temps en temps, pas forcément toutes les semaines, mais une fois par mois, on se retrouve toujours à avoir un petit peu le même groupe. Et c'est agréable parce que, voilà, du coup, on se rend compte qu'il y a vraiment... Ils viennent nous poser des questions, ils viennent améliorer leur score, des fois tout bêtement, sur le côté jeu vidéo ou reprendre une création. Et donc, on réfléchit peu à peu aussi à faire des ateliers, soit sur un contenu particulier, soit sur un type d'action, genre cette fois-ci, ce sera que de la création. On va peu à peu spécifier. Et je travaille notamment, j'en profite, avec la médiathèque de Saint-Avertin, qui est une médiathèque aussi qui s'est déjà depuis longtemps placée dans ce domaine, avec Alice Bernard, notamment la responsable des jeux vidéo là-bas et du numérique. Et on a fait notamment une journée de réunion de nos deux matériels qui a permis aux Balanais de profiter de tous les casques de Saint-Avertin et de Ballan. Et je ferai pareil au mois de janvier.
Voilà, donc, travaillez un peu en synergie.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de partager nos ressources pour plus de fun.
Est-ce qu'on peut évoquer aussi brièvement les autres événements? Parce
qu'il
n'y a pas que ces samedis consacrés à la réalité virtuelle.
Vous faites
aussi des goûters. Alors, il y en aura plusieurs, là.
Il va y en avoir cette semaine, justement.
Cette semaine, effectivement.
Et puis, à la fin du mois, 25-26 décembre. Avant Noël, bien évidemment. Et alors, ce sont des goûters où on souhaite rencontrer un petit peu le public. Alors, on a les goûters des jeunes, qui va entre 6 et 12 ans, à peu près. Et le goûter des ados. Donc, le goûter des jeunes, c'est toujours le mercredi en général, et le goûter des ados le jeudi soir. Et l'idée, c'est de rencontrer le public pour partager ce qu'ils ont aimé ces derniers temps, éventuellement leur montrer des nouveautés de ce qu'on a nous à proposer, mais aussi juste parfois papoter autour de la dernière vidéo qu'ils ont adorée, autour d'un buzz YouTube qu'ils ont trouvé incroyable, ou sortir la console de jeu pour s'amuser ensemble. Enfin, on essaie de créer des temps.
Pour le coup, là, c'est du réel, c'est pas du virtuel.
Là, c'est du réel. Là, pour le coup, en tout cas pour le moment, on n'a pas ramené la réalité virtuelle pendant ces goûters. Maintenant, s'il y avait une envie du groupe, par exemple, ça pourrait s'envisager parce que c'est un peu d'installation et surtout, ça monopolise un agent. Mais par contre, une fois que c'est installé, ça reste quelque chose de très facile à mettre en place. Donc voilà, ce sont des moments vraiment adaptables, on va dire, et qui se font en fonction des envies du public, des jeunes, entre autres.
Merci en tout cas, Laure, d'être venue nous parler de la réalité virtuelle.
De rien.
On peut rappeler quand même la médiathèque de Ballon-Miré, peut-être le site internet.
Ouais.
Est-ce que tu l'as en tête? Tu peux nous dire tout ça?
Oui, je l'ai en tête grâce à mes fiches.
Allez, les anti-sèches.
Ouais, le site internet, c'est laparenthèse-ballon-mire.fr. Et également, nous avons un Facebook, la parenthèse, espace culturel communautaire de Ballon-Miré. C'est très très long, mais vous tapez.
Ou médiathèque Ballon-Miré, je pense que ça.
Ou la parenthèse Ballon-Miré, ça sort.
Ou la parenthèse,
effectivement. Ouais, tout à fait. Et on a un Facebook assez actif pour avoir notamment les dernières infos de ce qui s'y passe, donc n'hésitez pas à nous suivre.
Et bien voilà, chers auditeurs, vous avez toutes les informations et on rappelle que tous les samedis, vous organisez des petits événements et des rencontres autour de la réalité virtuelle avec vos fameux casques.
C'est ça.